nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Nous prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je pense qu'aujourd'hui nous allons terminer le traité sur le baptême, donc qui va des questions 66 aux questions 71 dans la tertia pars, troisième partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et nous en sommes actuellement à la question 69, donc sur le polycopié qui est sur le site, c'est à la page 161. Avant que de commencer ce cours, je vais vous rappeler que j'ai encore des places pour les deux dernières retraites de l'année. Ici, donc à Pagliès, dans le Tarn, justement à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron, près d'Albi. Retraite du 23 au 28 septembre, d'une part, et d'autre part, du 14 au 19 octobre. J'ai entre 2 et 3 places libres par retraite. J'aimerais bien pouvoir remplir ces retraites pour qu'il y ait plus de grâce qui soit donnée à plus de personnes. Donc j'espère qu'un certain nombre d'entre vous qui m'écoutent sur l'Internet, intéressés pour pouvoir s'inscrire. Donc, contactez-moi à ce moment-là directement sur mon portable 06 32 01 65 16. Voilà, nous reprenons donc la question 69 sur les effets du baptême, conséquences du baptême. De façon générale, il faut d'abord dire une chose, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le baptême, la première fonction du baptême, la première conséquence du baptême, au moment précis où l'eau baptismale coule sur le front du baptisé, la première fonction du baptême, c'est d'enlever, avant même d'enlever le péché, c'est de donner la vertu de charité. Or, la vertu de charité est incompatible avec le péché, donc tous les péchés sautent. Ainsi, le baptême enlève tous les péchés actuels, tous les péchés personnels. Et pour un bébé qui n'a que le péché originel, il enlève le péché originel. Donc, le fait que le péché originel saute après le baptême est une conséquence indirecte, mais pas directe. La conséquence directe, c'est que la vertu de charité qui est donnée à cette âme. Donc, nous allons voir un petit peu les détails avec saint Thomas d'Aquin, donc dans cette question importante, question 69, les effets du baptême, avec 10 articles. Donc d'abord, saint Thomas se pose cette question de savoir si le baptême enlève tous les péchés. Donc il le dit expressément. Voilà ce qu'il dit dans le corps de l'article. Ici d'abord Ézéchiel, prophète Ézéchiel de l'Ancien Testament. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Puis ensuite il cite saint Paul aux Romains. « Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. » Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc cela montre, dit-il, que le baptême, par le baptême, l'homme meurt à la vétusté du péché et commence à vivre dans la nouveauté de la grâce sanctifiante. Or, tout péché appartient à cette vétusté passée, tout péché par conséquent est effacé par le baptême. Donc, après le baptême, immédiatement après le baptême, l'âme de la personne baptisée, même si c'est une âme d'adulte, donc il y avait beaucoup de péchés sur cette âme, tous les péchés sont effacés, pas simplement le péché, mais les conséquences aussi du péché, c'est-à-dire les peines temporelles des péchés déjà pardonnés et des péchés détruits par le baptême. Donc toutes les fautes du purgatoire, toutes les peines du purgatoire, pardon, sautent avec le péché. Donc une âme qui vient d'être baptisée, même une âme d'adulte, a une âme immaculée. Il lui arrive quelque chose à ce moment-là, elle meurt à ce moment-là, elle va directement au ciel. C'est comme pour le martyr. C'est un acte de charité parfaite. Okay. Si vous voulez, l'acte de charité parfaite, le martyr ou le baptême provoque les mêmes conséquences, c'est-à-dire la destruction non seulement de tous les péchés, mais aussi des peines temporelles dues aux péchés déjà pardonnés. Alors saint Thomas le précise juste à l'article suivant, à l'article 2, et c'est une logique parfaitement catholique. Premier point donc, est-ce que le baptême enlève le péché? Oui, le baptême enlève tous les péchés. Deuxième question, le baptême délivre-t-il de toute peine? Et la réponse est également positive. Est évident, je préfère quand même le dire pour que les choses soient claires, que dans le cas d'un adulte, il faut la bonne volonté. C'est-à-dire qu'il faut la contrition. Si un adulte était baptisé en disant « Oh, je vais être baptisé, comme ça tous mes péchés vont sauter, toutes les peines du purgatoire vont sauter, mais j'ai aucun regret pour mes péchés passés. » C'est évident que dans ce cas-là, le baptême n'effacerait pas ses péchés puisque cette personne n'a pas la contrition. Il faut la contrition, évidemment, des péchés passés, c'est absolument évident. Donc le baptême efface en même temps toutes les peines. La grâce de Dieu dans le baptême remet tout gratuitement. Il y a tous les péchés, mais aussi toutes les peines. Il cite saint Paul, les dons de Dieu sont sans repentance. La passion du Christ est une satisfaction suffisante pour tous les péchés de tous les hommes. Donc, le baptême efface tous les péchés. Bien qu'un assassin, alors voilà ce qu'il dit à la fin, c'est à la réponse à la troisième objection. Bien qu'un assassin soit par le baptême libéré de toute peine devant Dieu, il demeure cependant lié devant les hommes, qu'il doit édifier en subissant son châtiment comme il les a scandalisés par sa faute. Cependant, le prince pourrait par miséricorde lui remettre sa peine. Donc il est évident que si quelqu'un qui est condamné par la justice est baptisé, le baptême va enlever tous les péchés, mais la peine due au gouvernement, si vous voulez, à l'État en tant que tel, demeure. Par contre, toutes les peines devant Dieu sautent. Cependant, c'est pour cela que saint Thomas rajoute qu'il serait bon, à ce moment, dans un cas comme ça, que le prince remette la peine à la personne condamnée. Alors, si le baptême enlève tous les péchés, toutes les peines temporelles dues au péché, le baptême, par contre, n'enlève pas les maux de cette vie, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire. Ça, c'est l'article 3, et je pense qu'il faut bien insister là-dessus, à tel point qu'actuellement, de plus en plus, lorsque j'ai les baptêmes d'adultes, avec la grâce du bon Dieu, ça arrive quand même assez fréquemment encore, mais c'est... Pas que je vérifie sur mes registres, mais c'est... Disons, ces 6 dernières années, j'ai dû quand même baptiser à peu près 70 adultes, avec la grâce du bon Dieu. Ben alors, je suis obligé de prévenir ces adultes qui demandent le baptême. Attention, vous demandez le baptême, très bien, je vais vous baptiser si vous avez vraiment les bonnes dispositions, mais n'oubliez pas que le baptême n'enlève pas les maux de cette vie, et même dans certains cas, va les augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon qui n'aime pas le baptême est furieux de voir que vous allez être baptisé, et ne soyez pas étonnés si après le baptême, vous avez plus de tentations qu'avant. Ça arriverait très fréquemment. Plusieurs fois, j'ai eu ces remarques, des gens qui me disent, c'est vrai, depuis que je suis baptisé, j'ai plus de tentations qu'avant. Évidemment, le démon n'est pas content, c'est bon. Ces tentations, elles disparaîtront au paradis, rassurez-vous. Donc, le baptême a pour effet de crucifier le vieil homme, et de détruire le corps du péché, mais pas, non pas que la convoitise menée à la chair vivante et née avec elle soit aussitôt consumée, n'existe plus, mais présente à l'homme. À sa naissance, elle ne peut plus lui nuire après sa mort. Pour la même raison, les autres peines de la vie ne sont pas enlevées par le baptême. C'est-à-dire que le baptême enlève les péchés, enlève les conséquences du péché, mais n'enlève pas les... si vous voulez, même après le baptême, expliquons comme cela, même après le baptême, vont demeurer dans l'âme de la personne baptisée les blessures du péché originel. N'oubliez pas que ces blessures ne sont pas enlevées par le baptême. Le baptême enlève le péché, les conséquences du péché, mais les quatre puissances de notre âme ont été tellement marquées par le péché originel que même le baptême ne remet pas, si vous voulez, le compteur à zéro, et les personnes qui ont été, les adultes qui en sont baptisés, vont garder Et les tentations, ils vont garder la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil. Ils vont garder la faiblesse. La faiblesse, ils vont garder la malice, ils vont garder l'ignorance. Ce sont des conséquences, parce que chacune des puissances de notre âme, l'intelligence, la volonté, la concupiscence, l'irascible, le concupiscible et l'irascible sont marqués de façon définitive par le péché originel. Et même le baptême n'enlève pas ces blessures, il faut le savoir. Beaucoup de gens pensent qu'après le baptême, on redevient comme un petit enfant pour un adulte, on redevient comme un petit enfant juste après le baptême, donc tous nos problèmes sont terminés, on n'aura plus de tentation du tout. Certaines personnes sont baptisées comme ça, avec cette intention. Si je vais être baptisé, comme ça, j'aurai plus de tentation. Mais attention, les tentations, vous les aurez toujours. Parce que, encore une fois, les concupiscences seront toujours là. Le baptême, dit saint Thomas, a la puissance d'enlever les peines de la vie présente, cependant, il ne les enlève pas en cette vie. Mais c'est par sa vertu que les justes en seront libérés à la résurrection. C'est-à-dire que le baptême va ouvrir la porte des autres sacrements, surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie, le sacrement de confirmation, le sacrement de pénitence, et donc va ouvrir la porte des grâces. Alors si les autres peines de la vie ne sont pas enlevées par le baptême, cependant, vous aurez beaucoup plus de force pour porter vos croix après le baptême qu'avant le baptême. Mais les croix seront toujours là. Alors, je vous donne les explications que donne saint Thomas, qui sont très belles, voilà ce que dit saint Thomas dans la réponse à cette question. Le baptême enlève-t-il les maux de cette vie? Voilà ce qu'il dit. Parce que l'homme est incorporé au Christ par le baptême, il devient ainsi l'un de ses membres. Il convient donc que ce qui s'est passé pour la tête se passe aussi pour les membres. Si le Christ a été depuis sa conception plein de grâce et de vérité, il a eu cependant un corps passible, qui par sa passion et sa mort est ressuscité à la vie glorieuse. Ainsi, le chrétien reçoit-il par le baptême la grâce en son âme, alors qu'il a un corps passible, dans lequel il peut souffrir pour le Christ, mais à la fin il ressuscitera pour une vie impassible. Celui, dit saint Paul, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à nos corps mortels à cause de son esprit qui habite en nous. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu passer directement de la grotte de Bethléem au paradis. Il est passé par la case du mont Golgotha, c'est les souffrances du calvaire. Et nous qui sommes les héritiers du Christ, nous qui sommes membres de son corps mystique, nous devons aussi passer par la même case, à savoir la case de la souffrance. Donc cela convient pour l'exercice de la vie spirituelle, c'est pour ça que la vie spirituelle est un combat, c'est en luttant contre la convoitise et les autres faiblesses que l'homme recevra la couronne de la vérité. Donc saint Paul cite de nouveau saint Thomas cite de nouveau saint Paul. Si après le baptême l'homme vit encore dans la chair, il garde la convoitise qu'il doit combattre et vaincre avec l'aide de Dieu. Il convient donc, dit saint Thomas, cela convient aussi que les hommes ne viennent pas au baptême en vue d'obtenir l'impassibilité dans la vie présente plutôt que la gloire de la vie éternelle. Les deux premiers hommes, Adam et Ève, avaient reçu de Dieu un des dons comme don préternaturel, entre autres l'impassibilité, ne souffraient pas, il n'y avait pas de tentation. Mais ce n'est plus le cas après le péché originel. Là, on voit les catastrophes provoquées par l'orgueil du péché originel, par son péché d'orgueil. En gros, Adam et Ève se sont crus aussi forts que Dieu. Eh bien, ils ont détruit, ils ont introduit la racine du péché très très profondément dans nos âmes. Et même le baptême, malgré toute sa force, si le baptême peut enlever le péché originel, le baptême n'enlève pas les conséquences du péché originel sur chacune des puissances de notre âme. Nous restons des hommes marqués par les blessures du péché originel, même après le baptême. C'est pour ça qu'on ne peut en aucun cas dire que l'homme est bon. L'homme n'est plus bon parce que justement le péché originel l'a marqué. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Le péché originel s'est répandu de telle façon que c'est d'abord la personne qui a infecté la nature, puis la nature qui a infecté la personne. Mais Christ, à l'inverse, répare d'abord ce qui appartient à la personne, puis plus tard et chez tous en même temps, il réparera ce qui appartient à la nature. Ainsi, la coupe du péché originel et même la peine de la privation de la vision de Dieu qui concerne la personne sont aussitôt remises par le baptême. Mais les peines de la vie présente, comme la mort, la faim, la soif, le reste, on peut rajouter toutes les tentations, concernent la nature, parce qu'elle dérive des principes qui la constituent en tant qu'elle est déchue de la justice originelle. C'est pourquoi ces défauts ne disparaîtront que dans l'ultime réparation de la nature par la résurrection glorieuse. Ce n'est que lorsque nous serons au paradis que ces blessures du péché originel disparaîtront. Donc armez-vous de courage. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille beaucoup de lire le livre de Ernest Scupoli qui s'appelle « Le combat spirituel » qui explique bien toutes ces choses-là. Et là, on est bien dans toute la somme, la doctrine très forte de saint Thomas d'Aquin, qui exclut ce naturalisme qui a fait tellement de dégâts. Aujourd'hui, l'homme moderne, même parfois chez les catholiques modernes, et très souvent même chez les catholiques modernes, est persuadé que l'homme est devenu bon. L'homme n'est pas bon, parce que l'homme est marqué par le péché originel. Alors, le baptême confère-t-il à l'homme la grâce et les vertus ? Alors, voyons ce que dit saint Thomas sur ce sujet. Dans le baptême, dit-il, nous sont données la grâce du Saint-Esprit et l'abondance des vertus. Il faut expliquer qu'il y a d'abord la grâce spéciale du sacrement du baptême qui est donnée, et ensuite toutes les grâces qui tournent autour de cela. On ne reçoit pas simplement la grâce au baptême, la grâce sanctifiante, mais on reçoit aussi ce qu'on appelle la grâce sacramentelle et la couronne de la charité. Il y a tous les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, les béatitudes, tout ça est donné aussi avec le baptême. C'est pour ça que le baptême est tellement important. Si les baptisés gardent la difficulté pour le bien, j'ai déjà expliqué, c'est à cause des blessures du péché originel. Si les baptisés donc gardent de la difficulté pour le bien et de même de l'inclination au mal, ce n'est pas que l'habitus des vertus fasse défaut, mais c'est à cause de la convoitise que le baptême ne supprime pas. On garde la concupiscence. Cependant, cette convoitise, cette concupiscence est diminuée par le baptême, en sorte qu'elle ne règne plus aux maîtresses. De même, cette difficulté, cette inclination sont diminuées elles aussi, pour que l'homme ne soit pas écrasé par elles. C'est-à-dire que l'homme, après le baptême, aura plus de facilité et plus de force pour lutter, plus de moyens surnaturels mis à sa disposition pour lutter contre les tentations de la chair, tentations de la concupiscence des yeux et tentations de la concupiscence de l'orgueil. Donc il ne faut pas être surpris, surtout pour les baptisés adultes, si après le baptême vous avez plus de tentations. J'avoue qu'au début de mon sacerdoce, il y a une quarantaine d'années, je ne prévenais pas assez, quand j'avais des cas de baptême d'adultes, j'en ai pas beaucoup à l'époque, quand j'avais des cas de baptême d'adultes, je ne prévenais sans doute pas assez, je n'étais pas suffisamment en garde, les futurs baptisés, de ce qui allait arriver. Maintenant, je le fais beaucoup plus, parce que j'ai plus d'expérience, et l'expérience m'a montré à quel point il fallait prévenir les gens pour bien leur rappeler, attention, le baptême n'efface pas les conséquences du péché originel, et même après le baptême, vous pouvez avoir de très fortes tentations, et peut-être même que vous aurez plus de tentations après le baptême qu'avant le baptême, parce que c'est une façon pour le démon de se venger. Alors, voyons les effets des vertus maintenant conférées par le baptême. Donc, le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Devenons enfants de Dieu par adoption, le baptême a pour effet, dit saint Thomas, d'incorporer au Christ les baptisés. Donc, par le baptême, on est incorporé au Christ comme un de ses membres. Donc, il cite saint Paul, « Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. » Donc, de même que de la tête naturelle dérive dans les membres le sens et le mouvement, de même de la tête spirituelle qui est le Christ dérive dans ses membres un sens spirituel, la connaissance de la vérité et un mouvement spirituel, l'impulsion de la grâce. Ce que dit saint Jean, nous l'avons vu, plein de grâce et de vérité, et de sa béatitude nous avons tous reçu. Donc il s'ensuit que le Christ illumine les baptisés pour qu'ils connaissent la vérité et qu'en leur infusant la grâce, il leur donne la fécondité des bonnes œuvres. Vous voyez donc que cette illumination spirituelle est très importante et va donc donner une lumière extraordinaire de grâce à l'âme. L'âme est toute illuminée par le baptême. Et n'oublions pas que ce baptême confère une marque indélébile qu'on appelle un caractère, comme le sacrement de confirmation, le sacrement de l'ordre. Donc ce caractère qui fait que l'âme baptisée devient ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, ce caractère est inamovible. Il est éternel. Pour toute l'éternité, ce caractère demeurera. Même si malheureusement une âme baptisée tombe en enfer, elle gardera le caractère de baptême en enfer, et ce qui lui vaudra des souffrances épouvantables, parce qu'évidemment, le démon, s'il a en son pouvoir en enfer une âme baptisée, va se venger sur cette âme de toutes les avanies qu'il a subies à cause du baptême. Les adultes qui croient au Christ avant le baptême sont incorporés à lui spirituellement, mais une fois qu'ils reçoivent le baptême, ils sont incorporés d'une certaine façon corporellement, c'est-à-dire par le sacrement visible, sans le désir duquel ils n'auraient pas pu être incorporés, même spirituellement. C'est pour ça qu'il faut, pour un adulte, avoir un désir de baptême, et pas simplement un désir de baptême, mais une contrition de ses péchés passés. Alors, saint Thomas, article 6, pose la question de savoir si même les petits-enfants reçoivent au baptême la grâce et les vertus. Voilà ce qu'il dit. Par cette vie nouvelle, il dit, les enfants reçoivent au baptême la grâce et les vertus par cette vie nouvelle qui est donnée par le baptême, justement. Donc, c'est pas simplement le péché originel qui saute, mais c'est d'abord la vertu de charité qui est donnée, et avec la vertu de charité, toute la couronne de la charité. Donc, il y a eu certains anciens dans l'histoire de l'Église qui ont enseigné, dit saint Thomas, que le baptême ne donne aux enfants que la grâce, ne donne pas aux enfants la grâce et les vertus, mais qu'il leur imprime le caractère du Christ, en vertu duquel, une fois parvenus à l'âge parfait, à l'âge adulte, ils recevront la grâce et les vertus. Mais c'est faux! Parce que les enfants, comme les adultes, deviennent par le baptême membres du Christ. Ils doivent donc recevoir du chef l'influx de la grâce et des vertus. De plus, parce qu'à ce compte, les enfants morts après le baptême ne pourraient pas parvenir à la vie éternelle, puisque la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Ils ne leur serviront de rien, donc, pour le salut d'avoir été baptisés. Donc, tout ça, c'est faux. Donc, la cause de cette erreur, explique saint Thomas, fut que ces docteurs anciens ne surent pas distinguer l'habitus et l'acte. Voyant que les enfants sont incapables de faire des actes de vertu, puisqu'ils sont trop petits, ils n'ont pas encore l'usage de la volonté, et qu'après le baptême, ils n'auraient aucunement les vertus. Et cette impuissance à agir provient chez les enfants non de l'absence de l'habitus, mais d'un empêchement corporel. De même que ceux qui dorment, mais qu'ils aient l'habitus des vertus, sont empêchés par le sommeil d'en faire des actes. Donc c'est pas parce que l'enfant n'a pas encore une volonté d'adulte, une volonté développée, est incapable d'éliciter un acte de volonté, parce que c'est un enfant, un bébé. Cependant, il reçoit par le baptême la grâce et toutes les vertus. La couronne des vertus, et pas simplement les vertus, mais aussi les dons, les fruits du Saint-Esprit. Il y a une belle phrase ici de Saint-Augustin. Aux petits-enfants, la mère Église prête les pieds des autres pour qu'ils viennent, le cœur des autres pour qu'ils croient, la langue des autres pour qu'ils affirment leur foi. On pourrait préciser que par le baptême, aux petits-enfants, la mère Église prête les pieds des parents et des parrains, le cœur des parents et des parrains, la langue des parents et des parrains, puisque les parents puis les parrains sont les premiers responsables du développement spirituel de l'âme de cet enfant qui vient d'être baptisé. Article 7 de la question 69. Le baptême ouvre-t-il au baptisé la porte du royaume des cieux ? Alors, saint Thomas répond, la porte des cieux s'ouvre pour quiconque sort du baptême. Alors attention, bien comprendre la phrase. Ça ne veut pas dire que toute personne baptisée est sûre d'aller au ciel, c'est pas ça que ça veut dire. Disons que toute personne baptisée a en lui la clé qui permettra d'ouvrir la porte du ciel si il a, sur son âme, le jour de sa mort, la vertu qui va rendre cette clé opérante, et cette vertu, c'est la vertu de charité. Donc, quand on dit « la porte du ciel s'ouvre pour quiconque sort du baptême », il faut bien comprendre la phrase de saint Thomas, cette porte du ciel s'ouvre effectivement à condition que j'ai la vertu de charité. Ouvrir la porte des cieux, c'est enlever l'obstacle qui empêche d'y entrer. Cet obstacle, c'est la faute et la peine qui lui est due. Or, on a montré que le baptême remet absolument tous les péchés et toutes les peines. Par conséquent, il a pour effet d'ouvrir le royaume des cieux, dans les conditions que je viens d'expliquer. Alors, saint Thomas donne certaines explications qui sont très belles dans la réponse aux objections. Il explique que le baptême ouvre au baptisé la porte du royaume des cieux, parce qu'il l'incorpore à la passion du Christ et lui en implique la vertu. Voilà les réponses aux autres objections qui sont également intéressantes. Quand la passion du Christ n'était pas encore accomplie en réalité, mais n'existait que dans la foi des croyants, dans le cas des Juifs de l'Ancien Testament, par exemple, le baptême, de la même façon, ouvrait la porte du ciel, non en réalité, mais en espérance. Les baptisés qui mouraient alors attendaient avec une espérance certaine l'entrée du royaume des cieux. Alors ça, c'est pour répondre à l'objection suivante. Le baptême possède son efficacité depuis son institution. Or, certains ont été baptisés du baptême du Christ avant la Passion. C'est de cela dont il parle. Et cela, s'ils étaient morts, n'auraient pas trouvé le ciel ouvert puisque personne n'y entra avant le Christ. Ce n'est donc pas l'effet du baptême d'ouvrir la porte des cieux. Donc, saint Thomas d'Aquin répond que les baptisés qui mouraient alors attendaient avec une espérance certaine l'entrée du royaume des cieux. Ils ont dû attendre donc que les portes du paradis soient réouvertes. Alors, article 8, le baptême produit-il un effet égal chez tous les baptisés? Alors, voilà la réponse de saint Thomas. La réponse est positive. Une seule fois, un seul baptême. Mais une seule cause ne peut produire qu'un seul effet, qu'un même effet. Donc, dit-il, le baptême a chez tous le même effet. Alors, il va distinguer l'effet du baptême qui est double. L'un qui est essentiel et l'autre qui est accidentel. Donc, l'effet essentiel du baptême est celui pour lequel le baptême a été institué, la naissance à la vie spirituelle. Ainsi, comme tous les enfants sont dans la même disposition à l'égard du baptême, puisqu'ils sont baptisés non dans leur foi propre, mais dans la foi de l'Église, ils reçoivent tous au baptême un effet égal. Donc, ces commentaires de saint Thomas sur le baptême doivent nous faire comprendre la grandeur du sacrement du baptême. Vous pensez aux millions de personnes qui vont passer des années sur la terre sans même être baptisées, peut-être parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du baptême. La grâce que nous avons eue, au contraire, est très grande, nous, de connaître la réalité du baptême. Je dis souvent, quand je baptise un petit enfant, parfois je choque un peu les gens, mais c'est pourtant pas parfaitement vrai, théologiquement parlant. Je dis, on voit tout petit bébé qui est présenté au fond baptisement entre les mains de sa marraine. Eh bien, tout petit bébé, tout de blanc vêtu, petit poupon tout mignon, tout souriant, c'est magnifique. Je dis, mais attention, il faut comprendre que dans l'âme de ce petit enfant, le démon est là. Il guette et il attend, en espérant qu'il va pouvoir rester dans cette âme. L'âme d'un enfant qui n'est pas baptisé appartient au démon. Le démon est chef de cette âme. Par le baptême, le démon est mis dehors. Sort de cette âme, esprit impur. Dans les exercices du baptême. Alors, quant aux adultes, dit saint Thomas, qui apportent au baptême leur foi personnelle, ils n'ont pas tous les mêmes dispositions et viennent au baptême les uns avec plus, les autres avec moins de dévotion. Aussi, dit saint Thomas, les uns reçoivent-ils plus, les autres moins de cette grâce de renouvellement, bien que par soi le feu répande une chaleur égale pour tous ceux qui en approchent davantage en reçoivent plus de chaleur. Pardon, je répète. Bien que par soi le feu répande une chaleur égale pour tous, ceux qui en approchent davantage en reçoivent plus de chaleur. Vous voyez, comme saint Thomas fait bien les distinctions qui s'imposent. Alors, l'effet accidentel du baptême, dit saint Thomas, est celui pour lequel le baptême n'a pas été ordonné, mais qui est l'œuvre miraculeuse de la puissance divine dans le baptême. Le baptême, sans un miracle ineffable du Créateur, le baptême n'a pas pour résultat d'éteindre absolument la voie du péché qui, dans les membres, on garde, encore une fois, dans notre âme, une tendance au péché. On garde la concupiscence, les yeux, la chair et l'orgueil, les trois. Alors, tous les baptisés ne les reçoivent pas également, même s'ils s'en approchent avec une égale dévotion, car ces effets sont distribués suivant le plan de la providence divine. C'est-à-dire que lorsque Dieu baptise un enfant par le prêtre, eh bien, lui, il connaît le futur, il sait, il connaît la valeur de cette âme, et il y a des âmes qui sont plus ou moins valeureuses. des âmes qui sont plus grandes. Il est évident que quand le bon Dieu assiste du haut du ciel, si vous voulez, au baptême d'un enfant qui va devenir un très grand saint, bon, il est évident que le bon Dieu doit avoir encore plus de joie que quand il assiste au baptême d'un enfant qui n'est pas destiné à une grande sainteté dans l'Église. On voit très bien que toutes les âmes sont différentes. Notre Seigneur Jésus-Marie a reçu bien plus de grâce que vous et moi. Dieu voit tout. Il voit par exemple dans une âme qui est baptisée, une âme d'un bébé qui est baptisé, il voit que cette âme va un jour recevoir la confirmation, que cette âme va peut-être recevoir un jour le sacrement de l'ordre. Et donc il en tient compte dans les grâces qu'il donne le jour du baptême à ce bébé. Donc saint Thomas précise, et il reprend la même objection, si l'on voit chez les baptisés une grâce plus ou moins grande, cela peut tenir à deux raisons. D'abord, dit-il, parce que l'on reçoit dans le baptême une grâce plus grande à cause de sa plus grande dévotion, comme on vient de le dire. Puis, même si tous reçoivent une grâce égale, ils ne l'utilisent pas tous également, mais l'un profite avec plus de zèle, tandis que l'autre, par sa négligence, manque à la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand on baptise un adulte, il faut faire très attention à ce qu'il soit bien préparé au baptême pour comprendre les enjeux du baptême. Alors, d'autres détails importants dans saint Thomas. Saint Thomas va se poser la question de la fiction du baptême, le baptême qui est reçu par jeu, par exemple. Donc, il va citer le livre de la sagesse, l'Esprit Saint, qui nous éduque, fuit le simulateur. Mais l'effet du baptême vient de l'Esprit Saint, donc la fiction empêche l'effet du baptême. Donc ça c'est un détail, mais saint Thomas couvre tout, y compris les détails. Donc saint Thomas rappelle, en citant saint Jean Damascène, que Dieu ne force pas l'homme à la justice, ni au baptême. Ainsi, pour que le baptême justifie un homme, il faut que sa volonté embrasse et le baptême et ses effets. Et on parlera de fiction quand cette volonté s'oppose au baptême et ou à ses effets. Alors, article 10, dernier détail, saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir si, lorsque la fiction disparaît, le baptême obtient-il son effet ? Et voilà ce qu'il répond. Le baptême retrouve son efficacité salutaire lorsqu'une confession sincère fait disparaître cette fiction qui, aussi longtemps que le cœur persévérerait dans la malice et le sacrilège, empêchait l'ablution des péchés. Donc, en quelque sorte, le baptême va retrouver son efficacité salutaire lorsqu'il n'y aura plus d'obstacle, plus d'empêchement. Si quelqu'un reçoit le baptême par jeu, pour s'amuser, il est évident que le baptême, il n'a pas les conditions nécessaires pour recevoir les baptêmes dans les bonnes dispositions. Et donc, il manque quelque chose, il ne va pas recevoir les grâces du baptême. Mais si, au bout d'un certain temps, il regrette son acte, à ce moment-là, le baptême, dit saint Thomas, retrouverait son efficacité salutaire lorsque la confession sincère aura fait disparaître cette fiction. Donc, ce n'est pas le baptême qui enlève la fiction, mais c'est la pénitence qui suit. Ainsi, le baptême et la pénitence concourent tous deux à produire l'effet du baptême, et le baptême comme la cause directe, la pénitence comme une cause accidentelle qui écarte tous les obstacles. Alors, nous avons terminé avec cette question 69, qui est une question importante. Hein. Encore une fois, je conseille beaucoup à tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui ont un peu de temps, peut-être personnes qui sont peut-être retraitées, par exemple, qui ont plus de temps, eh bien, qu'elle n'hésite pas d'abord à relire soigneusement, à réécouter éventuellement si c'est nécessaire une deuxième fois le cours. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils avaient besoin d'écouter chaque cours deux fois. Première fois pour une idée générale de l'enseignement, deuxième fois pour que ça rentre plus profondément dans l'intelligence. Donc n'hésitez pas à le faire et travaillez le polycopier et même travaillez directement le texte même de saint Thomas d'Aquin. Vous pouvez trouver relativement facilement sur Internet, en PDF, le texte de saint Thomas d'Aquin. Et il y a beaucoup d'excellentes versions. Une des meilleures, c'est la version de Drillou. La version de Drillou est sans doute en français une des meilleures versions. Vous devez pouvoir l'obtenir sur Internet, sur un site de Thomiste. Vous pouvez avoir ce texte, vous devez entre autres l'avoir sur le site liberius.com ou .net, c'est un site canadien très bien fait. Donc c'est l'abbé Guéguin qui s'occupe de ça, qui fait un très bon travail. Et vous pouvez télécharger gratuitement en PDF d'une série de livres et vous devriez pouvoir trouver là-dessus la somme théologique de saint Thomas d'Aquin dans sa traduction de Rio, qui était une des meilleures traductions en français. Voyons maintenant des choses plus secondaires. Saint Thomas va terminer l'étude du baptême par des questions accessoires, accidentelles, enfin moins importantes, disons. Entre autres, la question de la circoncision. Beaucoup de gens posent cette question, même sur l'abbé, comment est-ce que les anciens qui vivaient avant notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils n'avaient pas encore le baptême ayant été institué par notre Seigneur Jésus-Christ, comment faisaient les gens qui vivaient avant le baptême, notre Seigneur Jésus-Christ, donc les gens de l'Ancien Testament, comment faisaient-ils pour sauver? Bien, ils se sauvaient par leur foi au Christ à venir. Et toutes les purifications légales, entre autres des Juifs, dans la circoncision pour les hommes, et toutes les purifications légales des femmes avant, après leur couche, etc., par exemple, étaient des purifications qui aidaient l'âme à augmenter sa foi au Christ à venir. Et donc les gens de l'Ancien Testament pouvaient être sauvés par cette foi au Christ à venir. On va voir ça avec saint Thomas. Donc, cette question numéro 70, sur la circoncision, est plus courte que 4 articles. Article 1, la circoncision a-t-elle préparé et préfiguré le baptême? C'est évident que la circoncision était une préparation, une figure du baptême. C'était en quelque sorte, on peut presque, saint Thomas va jusqu'à dire que la circoncision était un sacrement préparatoire au baptême. Bon, évidemment, il n'utilise pas le mot sacrement avec la même force qu'on utilise dans le Nouveau Testament, dans le catéchisme par exemple. Dans le sens que la circoncision ne donnait pas la même grâce que donne le baptême. Le baptême étant un sacrement, tous les sacrements donnent une grâce visible, un signe visible d'une grâce invisible. C'est un signe visible d'une grâce invisible. Donc la circoncision était donc un sacrement au sens large, pas au sens strict. C'est pour ça que la circoncision, si vous voulez, pouvait être comparée au baptême de Jean, alors que le sacrement de baptême est beaucoup plus fort, évidemment. Donc le baptême de Jean, Saint Jean-Baptiste, fut une préparation au baptême du Christ. Donc la circoncision était aussi une préparation à ce baptême quant à la profession de foi requise au baptême. Alors, saint Thomas se pose la question maintenant, à l'article 2 de la question 70, de l'institution de la circoncision. Voilà ce qu'il dit, donc question 70, article 2. La circoncision fut instituée par Dieu, dont les œuvres sont parfaites. Cette circoncision préparée au baptême, parce qu'elle était une profession de foi au Christ, foi que nous professons aussi au baptême. Mais parmi les anciens pères, Abraham fut le premier à recevoir la promesse du Christ à venir. Donc il convenait donc que la circoncision fût instituée en Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham fut le premier à se séparer de la société des infidèles pour obéir à l'ordre de Dieu qui lui disait « Sortez de votre pays et de votre famille ». Donc immédiatement après le péché du premier homme, Adam, la science personnelle d'Adam, qui avait été plus parfaitement instruit des choses de Dieu, maintenait assez de foi et de raison naturelle chez l'homme pour qu'il ne soit pas nécessaire d'instituer pour les hommes des signes de la foi et du salut. Et chacun témoignait de sa foi à sa guise par des signes qu'il a manifestés. Mais, à l'époque d'Abraham, la foi avait beaucoup diminué et beaucoup d'hommes étaient inclinés à l'idolâtrie. De plus, la raison naturelle avait été obscurcie par les progrès de la convoitise jusqu'à commettre des péchés contre nature. Saint Thomas disait cela autour des années 1271, 1272. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Pour l'état de corruption avancée dans laquelle la France, malheureusement, est depuis la Révolution, mais encore plus aujourd'hui. Aussi était-ce alors et non plus. Plutôt qu'il convenait que fût instituée la circoncision comme profession de foi au Christ à venir, comme remède à la convoitise charnelle. Alors, saint Thomas va, avec beaucoup de délicatesse, d'ailleurs on sent la beauté d'âme de saint Thomas, il fait très attention dans les termes qu'il utilise, de ne pas choquer les gens. Il dit que il pose la question à l'article 3 sur le rite de la circoncision. Et donc il dit que le rite de la circoncision fut ce qu'il devait être. Il était convenable que la circoncision se fasse dans l'organe de la génération. Pourquoi? D'abord parce qu'elle était le signe de la foi par laquelle Abraham crut que le Christ naîtrait de sa race. C'est-à-dire qu'il verrait la génération de milliers de descendants. Puis deuxièmement, parce qu'elle était le remède au péché originel qui se transmet par la génération. Enfin, troisième raison, parce que elle avait pour but de diminuer la convoitise charnelle qui réside surtout dans ses organes à cause de l'intensité de la délectation charnelle. Il est évident qu'aujourd'hui, puisque le baptême existe, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on n'aurait absolument plus le droit d'être circoncis pour des raisons religieuses. Il y a malheureusement des pays, entre autres aux États-Unis, j'ai essayé de lutter contre ça dans mes paroisses des États-Unis, sans grand succès d'ailleurs. Malheureusement, les habitudes avaient été faites pour même les enfants chrétiens, les bébés chrétiens étaient souvent circoncis à l'hôpital. Et j'ai dit aux fidèles, il ne faut pas les faire circoncis, sire, parce que la circoncision est une coutume juive. Vous êtes catholique, vous n'êtes pas juif. Donc il ne faut pas, circoncire les enfants catholiques. Ce sont la circoncision aux juifs, dont c'est le symbole. Alors avançons avec l'article 4, les effets de la circoncision. Donc saint Thomas explique que la circoncision remettait le péché originel. Il cite saint Augustin, « Dès que la circoncision fut établie dans le peuple de Dieu comme le signe de la justice par la foi, elle fut capable de sanctifier les petits-enfants et de les purifier de l'antique péché originel, comme le baptême, dès qu'elle fut instituée, fut capable de renouveler l'homme. » Donc la circoncision enlevait le péché originel, c'est ce que dit saint Thomas. Alors, cependant, il ne faudrait pas dire que les sacrements au sens large de l'Ancien Testament, comme la circoncision, donnaient les mêmes grâces que le baptême. Ça, ce serait faux. Justement, parce qu'il manque quelque chose. Et saint Thomas va expliquer en disant que la circoncision conférait la grâce avec ses effets, mais autrement que ne le fait le baptême. Le baptême confère la grâce par sa vertu propre, qu'il possède au titre d'instrument de la passion du Christ, déjà réalisée, mais la circoncision conférait la grâce parce qu'elle était signe de la foi à la passion future. Donc c'était une foi au Christ à venir. L'homme qui recevait la circoncision professait donc qu'il embrassait cette foi, l'adulte pour lui-même et un autre pour les enfants. Donc c'était en quelque sorte un peu un acte de charité. Un acte de foi, bien sûr, au Christ à venir, mais un acte de charité pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un juif qui était circoncis dans l'Ancien Testament faisait non seulement foi, acte de foi par rapport au Christ à venir, mais aussi un acte de charité, d'amour à l'égard de ce Christ à venir, même s'il n'était pas encore venu. Le baptême, au contraire de la circoncision, lui opère comme un instrument en vertu de la passion du Christ. Le baptême imprime un caractère qui nous incorpore au Christ et donne une grâce plus abondante que la circoncision, car une réalité présente est plus efficace qu'une simple espérance. Donc, si le baptême donne le caractère, la circoncision ne donnait pas le caractère. Donc saint Thomas précise, à la fin de la question 70, la circoncision effacer le péché originel dans ses conséquences pour la personne, mais laisser subsister l'empêchement d'entrer dans le ciel, qui tenait à la nature tout entière et que fit disparaître la passion du Christ. C'est pourquoi le baptême lui-même, avant la passion du Christ, n'introduisait pas dans le royaume et la circoncision, s'il avait subsisté après la passion du Christ, aurait introduit dans le royaume. Quand les adultes étaient circoncis, ils recevaient la rémission non seulement du péché originel, mais aussi des péchés actuels. Mais non point d'être libéré de toute peine due à ceci, comme fait le baptême qui confère une grâce plus abondante. Donc les grâces du sacrement de baptême sont plus importantes que les grâces de ce signe du baptême qu'est la circoncision. Alors, saint Thomas d'Aquin va terminer ce traité sur le baptême. Je rappelle qu'on couvre, ce traité couvre les questions 66 à 71 de la tertia pars de saint Thomas. Donc, saint Thomas va terminer ce traité par une question, question 71, sur le catéchisme et l'exorcisme. Là, il y a des choses intéressantes, vous allez voir dans ce qu'il dit là. Donc, il va rappeler plutôt. Que le catéchisme doit précéder le baptême pour un adulte, pas pour un enfant, mais pour un, pas pour un bébé, mais pour un adulte. Ça, lorsque j'ai parfois des gens qui viennent me voir avec des enfants de déjà 7-8 ans et qui me demandent le baptême pour l'enfant, je ne peux pas le donner tout de suite. Il faut un minimum de formation pour l'enfant. À 7-8 ans, on peut déjà recevoir une partie du catéchisme. Donc, l'importance de la formation des adultes en matière de catéchisme. Je ne peux qu'insister à la suite de saint Thomas d'Aquin sur cette formation intellectuelle, cette formation de l'intelligence pour lutter justement contre la conséquence du péché originel sur l'intelligence qui est la blessure d'ignorance. Il faut travailler. Je conseille beaucoup à tous ceux qui m'écoutent sur le site de travailler leur catéchisme. Ayez tous à la maison au moins un catéchisme de saint Pédis, mieux encore le catéchisme du Concile de Trente, qui est tout. Le catéchisme de Saint-Pédis est très bon, mais le catéchisme du Concile de Trente est plus complet. Je vous conseille aussi beaucoup le catéchisme de persévérance de Mgr Gaume, qui est excellent, qui est plus qu'un catéchisme, parce qu'il va toucher toute une série d'autres choses. C'est très facile à lire, il a un français excellent. Mgr Gaume est un docteur de l'Église, littéralement, au sens large, très sûr. Donc, n'écoutez pas les abominations qui circulent sur Internet, de tas de gens qui malheureusement se croient plus malins, plus royalistes que le roi, qui prétendent que Mgr Gaume n'est pas un auteur sûr. C'est totalement faux. Mgr Gaume était un ami personnel du pape, pape Pie IX, est un auteur extrêmement sûr. Vous pouvez vraiment suivre avec beaucoup de confiance toutes les œuvres de Mgr Gaume. Il y en a énormément. Vous les trouvez sur le site liberius.net, vous pouvez les trouver sur Internet. Donc, travaillez ces documents. Il a un français très beau et en même temps très simple. Donc ne croyez pas ceux qui vous racontent que Mgr Gaume était un fidéiste avec des positions philosophiques qui étaient fausses. Ça c'est la calomnie pure et simple, c'est faux. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc je reprends, j'ai oublié un catéchisme aussi que vous pouvez étudier, qui est peut-être plus difficile à trouver. Il y a un bon catéchisme, j'ai étudié un peu au séminaire. Le catéchisme de Gaspari est excellent aussi, même si certaines personnes ont des doutes sur l'intention de Gaspari, du cardinal Gaspari. Son catéchisme est quand même excellent et vous pouvez vraiment l'utiliser. Donc je répète, catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Mgr Gaume et aussi le catéchisme de Gaspari. Vous avez d'autres catéchismes qui sont excellents, comme le Spirago par exemple. Tous ces catéchismes anciens sont excellents. Il y avait aussi parmi les catéchismes diocésains des petites merveilles. Je vous rappelle un catéchisme que j'aimais bien, j'utilisais certaines des images. Il y avait des catéchismes tout simples qui, en quelques vingtaines de pages, arrivaient à résumer toute la foi catholique. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y en avait un. Si mes souvenirs sont exacts, l'auteur c'était Pringent. Les livres également de catéchisme de l'abbé Boulanger étaient très bien faits aussi. Des tableaux récapitulatifs absolument remarquables. Vous pouvez utiliser tout cela. Bon, je vous rappelle, non pas que je veuille me mettre au niveau de ses grands prédécesseurs, mais vous avez également sur le site un cours complet de catéchisme pour adultes. Donc, je crois qu'il y a 110 cours d'une heure et demie. Vous avez ça sur le site d'Anne-Marie. Pour ceux qui ne l'ont pas étudié, je vous conseille beaucoup de commencer par ça. Donc vous avez un catéchisme de 110 cours d'une heure et demie chacun, cours audio, mais en même temps un polycopie assez complet de 110 pages, en gros une page par cours, où je reprends le catéchisme de Saint-Pédis, catéchisme du Concile de Trente, et je mêle à tout ça beaucoup la somme théologique de saint Thomas, le magistère de l'Église. Donc je crois que c'est assez complet. Bon, j'ai pas la prétention du tout d'arriver au niveau de sainteté d'un catéchisme de Saint-Pédis ou du Concile de Trente, bien sûr que non, mais ça peut aider certaines personnes parce que parfois le fait qu'un catéchisme soit audio permet d'écouter plus facilement le travail, plus facilement les embouteillages en voiture, etc. Alors, voyons la question 71, donc, quatre articles, la question 71, le catéchisme et l'exorcisme. Le catéchisme demande saint Thomas, article 1, le catéchisme doit-il précéder le baptême ? Bon, alors il faut distinguer, évidemment, entre le baptême d'un bébé et le baptême d'un adulte, ou d'un supposé adulte. Donc, le baptême d'un bébé peut être fait sans catéchisme préalable. Parce que la foi des parents est la garantie que cet enfant va recevoir une éducation catholique au fur et à mesure de la croissance de son corps et de son intelligence. Par contre, pour un cas d'adulte ou d'assimilé adulte, c'est-à-dire même un enfant de 7-8 ans, doit déjà de recevoir du catéchisme avant d'être baptisé s'il n'a pas été baptisé comme bébé. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Le baptême est le sacrement de la foi, c'est une profession de foi chrétienne, mais pour recevoir la foi, il faut être instruit. Comment croire en celui dont on n'a pas entendu parler? Comment entendre son prédicateur? Dit saint Paul. Aussi convient-il, dit saint Thomas, que le baptême soit précédé par le catéchisme. Et c'est pourquoi le Seigneur, donnant aux disciples l'ordre de baptiser, leur commande d'enseigner avant de baptiser quand il dit « Allez, enseignez toutes les nations les baptisant ». Il redit la même chose dans le magnifique évangile de saint Marc qu'on a à la fête de l'Ascension, « Allez, baptisez. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est entendu qui n'est pas baptisé, sera condamné. » La vie de la grâce qui nous régénère présuppose donc la vie de la nature raisonnable, qui permet à l'homme de recevoir l'instruction. Donc là, encore cette belle phrase que je crois avoir déjà citée une fois, il me semble qu'elle est de saint Augustin. La mère Église prête aux petits-enfants les pieds des autres pour qu'ils viennent au baptême et leur cœur pour qu'ils croient. Elle leur prête aussi les oreilles des autres pour qu'ils entendent leur intelligence, pour qu'ils soient instruits par les autres. Il faut donc les catéchiser, de même qu'il faut les baptiser. Autre question, autre article de la question 71, article 2, l'exorcisme doit-il précéder le baptême? Vous savez que dans le catéchisme, dans le baptême, le rituel de baptême catholique, il y a plusieurs exorcismes, certains très courts, certains beaucoup plus longs, il y a deux longs exorcismes, il y a plusieurs exorcismes plus courts, qui sont nécessaires justement pour effacer l'influence du péché, au moins en partie dans l'âme des enfants baptisés. Donc, saint Thomas d'Aquin va citer le pape Célestin, que ce soit de petits-enfants ou des jeunes gens qui se présentent au sacrement de la régénération, le baptême, qui n'approchent pas de la fontaine de vie avant que l'esprit immonde ait été chassé loin d'eux par les exorcismes et les exudations des clercs, c'est-à-dire par toutes les prières et les onctions des clercs, de celui qui baptise. Quiconque veut accomplir sagement une œuvre commence par écarter les obstacles qui s'opposent. Il cite Jérémie, « Défrichez vos jacères, ne semez pas dans les épines. Si vous semez votre blé au milieu des épines, ça ne sert à rien parce que les épines vont empêcher le blé de se développer. » Le diable étant l'ennemi du salut des hommes, salut que le baptême leur assure, il a un certain pouvoir sur les hommes parce qu'ils sont sous l'empire du péché originel ou actuel. C'est pour ça que l'enfant, avant le baptême, d'une certaine façon, appartient au démon. Il convient donc, avant le baptême, de chasser les démons par les exorcismes afin qu'ils ne fassent pas obstacle au salut de l'homme. Donc, il y a toute une série d'exorcismes, entre autres, par exemple, avec le sel. Il y a un certain nombre de prières. Le prêtre qui baptise va renouveler certains des gestes que faisait notre Seigneur Jésus-Christ sur les possédés. Avec la salive, par exemple, en soufflant sur eux. La bénédiction avec l'imposition des mains qui ferme aux démons expulsés le chemin du retour. C'est pour signifier cette expulsion, par exemple, que l'on souffle sur le catéchumène. Le sel mis dans la bouche et la salive dont on touche le nez et les oreilles signifient aussi que les oreilles reçoivent la foi, que les narines en approuvent le parfum et que la bouche le confesse. Quant à l'onction d'huile, elle signifie la force de l'homme pour lutter contre les démons. Donc tous ces exercices sont très importants. Hein. C'est la plupart de ces exercices, entre autres les deux grands exercices, ont été supprimés dans le rituel de baptême de l'Église de Vatican II. Donc attention, hein. C'est pour ça que si votre enfant a été baptisé avec le nouveau rituel de Vatican II, de l'Église de Vatican II, donc il est tout à fait préférable de faire rebaptiser, au moins minimum d'avoir complément, de demander à un prêtre catholique de faire les compléments du baptême, c'est de rajouter tout ce qui manque dans le rituel de Vatican II, même dans bien des cas, carrément, de rebaptiser sous condition pour plus de sécurité, parce qu'en matière de sacrement, on a le devoir d'être tussuriste, il faut toujours aller au plus sûr. Alors, saint Thomas, afin de traiter, se pose la question suivante. Article 3 de la question 71, ce qui se fait dans l'exorcisme a-t-il une efficacité ou seulement une valeur de signe? Alors, il va répondre en disant que ces rites d'exorcisme ont une certaine efficacité, mais différente de celle du baptême lui-même. Car le baptême donne à l'homme la grâce par la pleine rémission de ses fautes, mais les rites de l'exorcisme écartent un double obstacle qui s'oppose à la réception de la grâce du salut. On peut dire en quelque sorte que l'exorcisme va ouvrir la porte pour que les grâces du baptême puissent vraiment rentrer. De ces obstacles, l'un est extérieur, c'est le démon, qui s'efforce d'empêcher notre salut et de qui l'exorcisme nous délivre. Et l'autre obstacle est intérieur. En ce sens que, dit saint Thomas, imprégné par le péché originel, nos sens sont fermés à la réception des mystères du salut. Donc, saint Thomas cite Raban mort, par la salive symbolique et le toucher du prêtre, la sagesse et la puissance de Dieu opèrent le salut des catéchumènes en ouvrant leurs narines pour qu'elles perçoivent le parfum de la connaissance de Dieu, en ouvrant leurs oreilles pour qu'elles écoutent les commandements de Dieu, et en ouvrant leurs sens pour qu'ils y répondent du fond du cœur. Donc les exorcistes préparent l'ablution du baptême. Donc ceci pour empêcher l'influence du démon sur le baptisé. Mais n'oublions pas que malgré le baptême, le démon peut avoir encore une influence sur le baptisé, notamment si le baptisé comme adulte ouvre la porte de son âme au démon. Ça, évidemment, si on ouvre les portes de l'âme au démon, le démon va en profiter et rentrer. Alors, saint Thomas, c'est la dernière article de la question 71, le dernier article du traité sur le baptême. Est-ce que c'est le prêtre qui doit catéchiser, exorciser les candidats au baptême? Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Donc, la réponse générale de l'Église, c'est la coutume de l'Église, les premières personnes qui sont en fait en charge de l'instruction catéchétique pour un bébé, ce sont les parents. Bon. Et aidés, dans certains cas, par les parrains. Si les parents ne remplissaient pas leur fonction d'éducation catholique pour leurs enfants, les parrains devraient rentrer dans la bagarre pour remplacer de ce côté-là les parents quand c'est possible, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours possible, parfois, les parrains n'ont malheureusement pas le pouvoir de compléter ce qui manque dans l'éducation que les parents ont donné aux enfants. Bon, ça c'est pour les bébés. Pour les enfants, après, une fois que le bébé a commencé à grandir, devient un petit enfant et un enfant, et bien là, les parents doivent continuer, bien sûr, ce travail de catéchisme qui est extrêmement important. Cependant, lorsqu'on a des cas de conversion d'adultes, et je pense qu'il est sans doute préférable, au moins dans la plupart des cas, que ce soit le prêtre lui-même qui fasse la préparation catéchétique. Parce que souvent, il y a des questions un peu plus complexes à résoudre. Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas en réponse à cette question. Est-ce le prêtre qui doit catéchiser et exorciser les candidats au baptême? Bon. Les ministres inférieurs coopèrent avec le prêtre. C'est-à-dire, les ministres inférieurs, c'est les ministres des ordres mineurs, portier, lecteur, acolyte, exorciste, plus également le sous-diacre et le diacre. Les ministres inférieurs coopèrent avec le prêtre en tout ce qui prépare au sacrement, les lecteurs pour le catéchisme, les exorcistes pour les exorcismes. Bon. Cependant, dans la pratique actuelle des choses, l'ordre mineur d'exorciste n'a pas le droit d'exercer des exorcismes en tant que tel. Son pouvoir est en quelque sorte lié. Par contre, un diacre peut déjà exorcer son pouvoir d'exorciste, notamment en baptisant avec l'accord du curé. Donc il y a diverses sortes d'instructions, dit saint Thomas. L'une est destinée à convertir à la foi. Bon, strictement parlant, pour les adultes, c'est réservé à l'évêque. mais elle peut revenir à n'importe quel prédicateur, même à n'importe quel fidèle, qui a suffisamment d'instruction pour pouvoir éduquer correctement, enseigner correctement le catéchisme. Une autre instruction enseigne les rudiments de la foi et la manière de recevoir les sacrements. Elle incombe secondairement aux ministres et principalement aux prêtres. Une autre instruction encore enseigne à vivre chrétiennement, et celle-là revient aux parrains et surtout aux parents. Et la quatrième instruction, sorte d'instruction, enseigne les profondeurs et les mystères de la foi et les perfections de la vie chrétienne, et cela d'office appartient en principe à l'Église enseignante, c'est-à-dire aux évêques. Hein? Vous voyez donc l'importance de finir ainsi le traité sur le baptême de saint Thomas d'Aquin, donc l'importance de l'enseignement catéchétique. Je pense que si on est arrivé là où on en est, c'est-à-dire avoir la France qui est devenue un pays de sauvages, une jungle, et pas d'autre mot, si la pratique de la foi a pratiquement disparu en France, la pratique officielle c'est quelque chose comme 2 ou 2,5%, mais hélas, l'islam a pris pratiquement la possession de la France, puisqu'il y a plus de musulmans pratiquants que de catholiques pratiquants en France. Eh bien, cela oblige impérativement les parents catholiques donc à se former et sauvegarder les âmes de leurs enfants pour que nos familles catholiques deviennent des petites oasis, si vous voulez, dans un monde complètement pourri, dans lequel, au moins dans ces endroits-là, la foi catholique puisse être enseignée. Voilà, nous avons donc terminé avec cette conférence le traité sur le baptême. Donc nous en sommes aux questions 66, non, terminé les questions 66 à 71 de saint Thomas d'Aquin. Et donc, si Dieu veut, la prochaine fois, nous commencerons le traité suivant, qui est beaucoup plus court, puisqu'il ne contient qu'une seule question, la question 72 de la tertia part, le traité de la confirmation. Voilà, que le bon Dieu vous bénisse tous.